Chapitre 7. Commune démangeaison. Le jour suivant apporta son lot de noms qui satisfaisaient aux critères, tous avec une vague référence au pic du dragon, lorsqu'il était question du lieu de naissance. Moiraine et Siouan avaient compris qu'elles ne verraient jamais la mention « née sur les pentes du pic du dragon » accolée à un nom. Les prophéties du dragon étaient en effet trop universellement connues, souvent avec d'énormes lacunes, en particulier parmi les gens du peuple. Mais le rapport entre la naissance du sauveur et le pic restait de notoriété commune. Quelle mère aurait clamé partout qu'elle avait accouché d'un fils capable de canaliser le pouvoir? En d'autres termes, d'un malheureux condamné à vivre dans la terreur, puis à sombrer dans le désespoir. Quant à avouer qu'on était peut-être la mère du dragon réincarné. Dans l'incapacité d'occulter le pic du dragon, parce que leur connaissance aurait signalé l'omission, les mères optaient pour une vague mention du genre « non loin de la montagne » ou « en vue du pic ». L'enfant que cherchaient les deux amis se cachait sûrement derrière une approximation de ce genre. Quelqu'un devrait aller voir ces femmes et les interroger subtilement. Glaner des informations sans rien lâcher soi-même n'était pas facile. Pour s'amuser, Moiraine s'y exerçait mentalement. Éveiller les soupçons d'une mère inciterait celle-ci à mentir de nouveau, puis à s'enfuir dès que son interlocutrice aurait tourné le dos. En un sens, ça reviendrait à jouer au Dice d'Aemar avec le monde pour enjeu. Même si un tel défi ne lui disait rien, la jeune femme ne pouvait s'empêcher d'imaginer qu'elle le relevait. Le troisième matin, Tamra en personne fit irruption dans le bureau au moment où Moiraine, après y avoir noté un nom, rangeait son petit carnet dans sa ceinture. Alors qu'elle se fendait d'une révérence, elle tenta d'intégrer ce geste furtif à la courbette, comme si la surprise l'avait poussée à se montrer un peu maladroite. Estimant qu'elle s'en était bien tirée, Moiraine retint cependant son souffle, pendant que la chair d'Amirline étudiait soigneusement. Avait-elle vu le carnet ? Soudain, l'idée de s'excuser plutôt que de demander l'autorisation ne semblait plus si brillante que ça. Si elle se faisait prendre, les deux amis le regretteraient. Selon toute vraisemblance, ça leur vaudrait un stage de réhabilitation dans une ferme isolée. 2 semaines à travailler du matin au soir, coupés de leurs amis et avec, bien entendu, l'interdiction de canaliser le pouvoir. Pour les novices et les acceptés, c'était l'ultime punition. En d'autres termes, la dernière chance d'apprendre à se comporter correctement avant d'être exclus comme des malpropres. Au-delà des ampoules que les deux jeunes femmes récolteraient aux mains, ce châtiment les empêcherait sans doute à tout jamais de participer à la quête du bébé.
« Je pensais que vous auriez eu votre dose d'ennui après la journée d'hier, mes enfants, » dit Tamra.
« Surtout toi, Siouan. »
Une fille de pêcheur rougissait rarement. Pourtant, la jeune femme s'empourpra. Tout le monde savait qu'elle détestait les tâches répétitives. Devoir copier sans ligne était une des punitions qu'elle détestait le plus.
« Mère !»
intervint Moiraine.
Les listes m'aident à garder sous contrôle mes pensées.
Lorsqu'on commençait à donner des réponses d'Aes Sedai, ça devenait ensuite de plus en plus facile, même devant la chair d'Amirline. En réalité, des pensées parasites traversaient toujours l'esprit de Moiraine, liste ou pas liste. L'image d'un bébé dans la neige, celle d'un garçon sans visage, et bien entendu, celle du trône du soleil. Moiraine aurait voulu implorer Tamra à ce sujet. La Tour Blanche ne pouvait-elle pas renoncer à ce plan-là? Mais c'eût été peine perdue. Quand il s'agissait de tisser, la tour se montrait aussi impitoyable que la roue du temps. Dans les deux cas, les fils étaient des vies humaines, et la trame importait 1000 fois plus que le destin et les désirs de simples individus.
« Très bien, mon enfant. Tu peux continuer,
tant que tes études n'en pâtissent pas. » Tamra tendit une feuille de parchemin pliée et scellée à la cire verte que Moiraine n'avait pas remarquée.
« Apporte ceci à Keren Nagashi. Elle devrait être dans ses appartements. Surtout, ne remets ce message à personne d'autre. »
Comme si Moiraine avait été assez inconsciente pour ça. En privé, et sans élever le ton, beaucoup d'acceptés se plaignaient quand elle devait gravir l'escalier en colimaçon qui menait jusqu'au sommet de la tour. Même si c'était effectivement fatigant, Moiraine adorait qu'une mission la conduise dans les quartiers des Ajas. Voir les gens dans leur cadre de vie était toujours une expérience enrichissante. À ces moments-là, même les Aes Sedai baissaient un peu leur garde. Très peu, certes, mais quand on savait observer, on pouvait apprendre bien des choses. Les 7 quartiers comptaient le même nombre de chambres, et leur configuration était identique. En revanche, les détails divergeaient très nettement. Par exemple, une épée grandeur nature était imprimée dans chacune des grandes dalles de sol des couloirs de l'âge à vert. Des armes de tous les styles, avec des lames droites, incurvées ou à double tranchant. Pareillement, chaque porte était ornée d'une épée représentée la pointe vers le haut. Pour les représentantes, l'arme était dorée à leur fin,
et simplement plaquer argent ou laqué pour les sœurs communes. Les tapisseries tendues entre deux hallebardes, histoire de faire plus martial, représentaient toutes des scènes de bataille. De très anciennes fresques, souvenirs de nations depuis longtemps disparues, qui n'auraient probablement plus été entières sans un recours régulier au pouvoir. Les plus récentes, reconnaissables à des couleurs bien plus vives, ne dataient tout de même pas d'hier. Les Aes Sedai n'avaient plus combattu depuis les guerres des Trollocs. Mais lorsque sonnerait l'heure de l'ultime bataille, l'Aja guerrier reprendrait du service et chargerait en tête des forces de la lumière. Jusque-là, les sœurs vertes luttaient pour la justice, souvent avec l'aide de l'épée de leur champion. Mais ce n'était qu'une occupation qui les aidait à patienter jusqu'à Tarmon Gaidon. Dans le fief de l'Aja vert, les hommes abondaient, et c'était une particularité des plus notables. Pas des hommes quelconques, bien entendu, des champions. Petits ou grands, minces ou costauds, parfois même un peu bedonnants, ils se déplaçaient tous avec une grâce de félin. À l'intérieur, ils ne portaient pas leur fameuse cape de caméléon, mais pour un œil avisé, ce n'était pas un problème. On voyait des champions dans les quartiers de tous les Aja, sauf le rouge évidemment, mais la plupart vivaient dans les casernes de la garde, voire en ville. Les champions des sœurs vertes, eux, partageaient souvent les appartements de leur Aes Sedai. Marchant à grands pas, comme s'il était lui aussi en mission, un champion aux yeux verts, assez court sur pattes mais large comme deux hommes normaux, jeta un rapide coup d'œil à l'accepté. Trois autres guerriers, occupés à converser, se turent quand elle passa près d'eux, et recommencèrent à parler dès qu'elle se fut trop éloignée pour comprendre ce qu'ils disaient. Originaire de Larafel, un des champions portait des clochettes d'argent dans sa barbe noire. Un autre arborait l'épaisse moustache rituelle au Tarabone, et le dernier, au teint très mat, devait venir de Théar ou du sud d'Altara. Mais ces trois hommes, en plus de leur félinité, avaient un point commun qu'ils partageaient avec le champion de petite taille et tous ceux qui allaient et venaient dans le coin. Un jour, alors qu'elle s'adonnait à la fauconnerie, Moiraine avait plongé son regard dans celui d'un aigle muni d'un capuchon, ses plumes noires lui faisant comme une couronne autour de la tête. Croiser le regard d'un champion faisait exactement la même impression. On n'y lisait aucune férocité, seulement une profonde sérénité et la parfaite conscience d'être un tueur né, familier de la violence depuis le jour de sa naissance. Mais une violence contenue et disciplinée par leur volonté et leur lien avec une Aes Sedai. Ici, les champions vaquaient à leurs occupations quotidiennes, et ils ne cherchaient pas à impressionner la galerie. Un type très mince, au crâne rasé, à l'exception du toupet typique des guerriers du Chiennard, était adossé à un mur. Un pied posé sur une chaise, il accordait un violon, et ignorait ostensiblement les critiques d'un autre champion qui l'accusait d'émettre des sons pires que les miaulements d'un chat mouillé pris dans un filet. Deux autres colosses, en bras de chemise, s'entraînaient avec des épées de bois, dans un large corridor, leurs armes s'entrechoquant avec un vacarme de fin du monde. Rina Avden, une sœur verte qui réussissait à paraître jolie, malgré son visage carré et sa silhouette un rien massive, les encourageait en criant, avec un grand sourire.
« Oui, Waylin, très joli coup! Mais quelle belle parade, Elias !»
Exactement de la même taille, les deux hommes se ressemblaient beaucoup. N'était le teint mat et le crâne rasé de l'un, alors que l'autre, la peau laiteuse, arborait une courte barbe. Souriant, les duettistes se déplaçaient de plus en plus vite. Même si leurs chemises trempées de sueur leur collaient à la peau, ils semblaient frais comme des gardons, et disposés à ferrailler pendant encore des heures. Passant devant une porte ouverte, Moiraine vit un vétéran au visage rond, occupé à jouer une pompeuse mélodie sur sa flûte, pendant que Jala Bandevin, une sœur aux cheveux gris à l'autorité imposante malgré une très petite taille, tentait d'enseigner à un nouveau champion les pas d'une danse en vogue à la cour. Le garçon aux joues légèrement roses devait être une nouvelle recrue, car il ne pouvait pas avoir plus de 20 ans. Pourtant, se souvint Moiraine, pour que le lien soit établi, le candidat devait avoir toutes les compétences requises, à part en ce qui concernait la danse, semblait-il. Orné d'une épée laquée en rouge, jaune et noir, la porte de Karen était également ouverte, et il en sortait aussi de la musique, mais sur un mode plus entraînant. Moiraine ignorait la signification du laquage et des couleurs, et il en serait à tout jamais ainsi, soupçonnait-elle, si elle ne choisissait pas l'âge à vert. Comme ça n'était pas dans son intention, elle devrait se résigner à ne pas savoir, ce qu'elle détestait plus que tout au monde. Dès qu'elle se trouvait face à quelque chose de mystérieux, elle éprouvait comme une démangeaison entre les omoplates, à l'endroit précis qu'elle ne pouvait pas atteindre. Comme chaque fois qu'elle s'aventurait dans les quartiers de la Javert, elle rangea l'énigme de l'épée dans un coin de sa tête, avec bien d'autres mystères liés à ce lieu et qu'elle aurait donné cher pour résoudre. La démangeaison se calma, mais elle se manifesterait de nouveau lors de sa prochaine visite, c'était couru. Dans le salon de Keren, quelques tapisseries représentaient des scènes de chasse ou de guerre, mais l'essentiel de l'espace était réservé à des bibliothèques richement sculptées qui provenaient d'une bonne demi-douzaine de pays.
En sus de quelques livres, elle contenait un crâne de lion, une tête d'ours, des coupes vernissées, des vases de toutes les formes, des dagues décorées de pierres précieuses et d'or, et d'autres munies d'une simple poignée en bois. La plus ancienne avait plus qu'un moignon de lame attaqué par la rouille. À côté d'un marteau de forgeron à la tête fendue en deux, Moiraine remarqua une coupe de bois, également fendue, qui contenait une gemme assez grosse et brillante pour provenir d'une couronne. Ses aiguilles à jamais immobilisées sur midi ou sur minuit, une horloge plaquée or, voisinée avec un gantelet de fer taché de noir. Du sang. Moiraine en aurait mis sa tête à couper. Ces objets et des dizaines d'autres témoignaient du parcours d'une sœur qui avait reçu le châle 100 ans plus tôt. Keren avait gardé très peu de souvenirs de sa vie d'avant. Quelques miniatures encadrées très simplement et accrochées au-dessus du manteau de la cheminée composaient une galerie de portraits intimes. On y voyait un homme très digne, une femme enrobée qui souriait aux anges, et 5 enfants, dont 3 filles. Les parents et la fratrie de Keren, tous morts depuis longtemps, ainsi que leurs enfants, leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants. Le chagrin intime que tout Aes Sedai portait au fond de son cœur. Au fil du temps, les êtres aimés disparaissaient et le monde changeait. Seule la tour blanche demeurait immuable. 2 des champions de Keren se trouvaient dans le salon avec elle, avec ses cheveux et sa barbe qui lui donnaient l'allure d'un lion à crinière royale. L'impressionnant Caril lisait un livre devant la cheminée, les pieds nonchalamment appuyés sur le garde-cendre en fonte. Un filet de fumée montait du foyer de sa pipe au très long tuyau, évoquant davantage un fonctionnaire qu'un guerrier, avec ses épaules étroites et ses yeux marrons mélancoliques. Stépine jouait une gigue endiablée sur un dulcimer. Moiraine nota que ses doigts bougeaient sur l'instrument avec l'agilité de ceux d'un musicien professionnel. Aucun des 2 hommes ne s'interrompit à cause de l'arrivée d'une acceptée. Campé devant un canevas, Keren étudiait pensivement les motifs d'une tapisserie florale. Il était toujours étrange de voir une sœur verte brodée, surtout lorsque le sujet était si bucolique. Comment faire le lien avec les scènes violentes qui ornaient les murs? Grande et mince, Keren respirait la beauté et la santé. La sérénité de son regard ne devait pas tromper, c'était une femme d'action. Même chez elle, elle portait une robe d'équitation fendue, les pans joliment roulés d'un liseré vert, et ses cheveux noirs à peine grisonnants étaient coupés plus courts encore que ceux des 2 hommes. Pour plus de commodité, elle les avait nattés, et elle ne prenait pas le temps de les défaire, même quand elle ne voyageait pas par monts et par veaux. Car elle ne restait jamais bien longtemps en place, cette aventurière. Piquant son aiguille dans la toile, elle s'empara du message et brisa le sceau de cire verte d'un pouce nonchalant. Tamra utilisait toujours une couleur de cire accordée à l'obédience de la destinataire de ses lettres. Une façon de rappeler qu'elle appartenait à tous les Ajas et à aucun. La missive ne fut pas longue à lire. Alors que son Aes Sedai finissait d'en prendre connaissance, Stépine cessa de jouer, posa son instrument contre un guéridon et commença à boutonner sa veste. Caril rangea son livre sur une étagère, tapota sa pipe contre le montant de la cheminée, puis la rangea dans sa poche. Les 2 hommes ne dirent rien, mais ils étaient prêts à tout et n'attendaient plus que des ordres. Des léopards sur le point de se mettre en chasse.
« Il y aura une réponse, Aes Sedai ?» demanda Moiraine.
« Je la porterai moi-même, mon enfant, » répondit Keren avant de partir à grandes enjambées vers la porte. Elle se tourna vers les 2 champions.
« Tamra veut me voir d'urgence, mais elle ne dit pas pourquoi. »
Moiraine réprima un petit sourire. Comme devant les servantes, les sœurs oubliaient souvent que les acceptés avaient des oreilles. Souvent, la meilleure façon d'apprendre était de se taire et d'écouter. Alors qu'elles faisaient le chemin en sens inverse dans les couloirs venteux, tentant d'oublier le froid et de réfléchir aux informations qu'elles venaient de glaner, Moiraine entendit des bruits de pas, se retourna et vit que Siouan courait pour la rattraper. Il n'y avait pas de sœur en vue, certes, mais un peu de retenue n'aurait pas été de trop.
« Je viens de délivrer un autre message, adressé à Aisha Ravenéos, celui-là. » Elle a marmonné quelque chose au sujet d'une urgence après l'avoir lue. Je parie que c'était la même lettre que celle destinée à Keren. Pourquoi Tamra convoque-t-elle une sœur verte et une grise?
L'Aja gris était chargé de tout ce qui concernait la justice et les activités de médiation. Bref, il intervenait là où l'Aja vert n'avait rien à faire. Quels que soient les sentiments personnels, Aisha, disait-on, s'en tenait strictement à la lettre de la loi. Dans son domaine, Keren était exactement pareil. Et toutes 2 portaient le châle depuis longtemps. Un élément qui pouvait avoir ou ne pas avoir son importance. Moins douée pour les énigmes que Siouan, et moins prompte à en voir partout, Moiraine dut cependant reconnaître que tout ça lui rappelait furieusement le grand jeu. Elle regarda autour d'elle soigneusement. Dans le couloir, une servante était en train d'égaliser les mèches des lampes à huile. 2 domestiques, l'un perché sur une échelle, s'occupaient de réparer ou de consolider le cadre d'une tapisserie.
Il n'y avait toujours pas de sœur en vue, mais Moiraine parla pourtant à voix basse.
Tamra veut des enquêtrices pour suivre la piste du bébé. Voilà qui change tout. J'avais tort, Siwan, et tu avais raison.
De quoi parles-tu? Et qui te prouve qu'elle recrute des enquêtrices? Comment une femme si douée pour les énigmes pouvait-elle passer à côté d'une telle évidence?
Quelle urgence peut avoir Tamra, à part le nouveau-né? Et quelle mission secrète au point de ne pas l'évoquer dans son message? Sa discrétion signifie qu'elle ne fait pas confiance à la Jarouge. C'est sur ce point que tu avais raison. Mais combien de sœurs, au premier abord, auront le réflexe de nier l'identité du petit? Surtout s'il reste introuvable jusqu'à ce qu'il soit adulte et capable de canaliser le pouvoir. Pour le rechercher, Tamra doit recruter des sœurs de confiance. Et sais-tu en quoi j'avais tort? Eh bien, je croyais qu'il serait conduit à la tour, mais c'était absurde. Parce que ça l'exposerait aux sœurs rouges et à toutes celles qui pourraient vouloir lui nuire. Dès qu'elle l'aura trouvé, Tamra s'arrangera pour le cacher. Et elle confiera son éducation aux enquêtrices, à savoir les femmes qu'elle tient pour ses plus loyales alliées.
Siwan se posa une main sur le crâne. « Ma tête va exploser, » marmonna-t-elle.
« Tu déduis ça de deux messages dont tu ignores la teneur ? Je sais assez ce qu'ils disent, et surtout ce qu'ils ne disent pas, pour assembler les pièces du puzzle, mon ami. Pour toi, ça devrait être un jeu d'enfant. Vraiment ? Elide m'a confié un casse-tête de forgeron la semaine dernière. Parce qu'il l'ennuyait, a-t-elle dit. Mais je crois que c'était parce qu'elle séchait. Tu veux t'y essayer ?
Non, merci, »
répondit Moiraine. Après avoir de nouveau vérifié l'absence de tout Aes Sedai, elle tira la langue à son ami. Le lendemain, Tamra envoya trois nouveaux messages. Le premier à Meilin Argania, le deuxième à Valera Gorovni, une jolie petite sœur marron un peu boulotte qui souriait sans cesse et ne tenait pas en place, et le dernier à Ludis Danin, une sœur jaune et tique dont le long visage osseux était encadré par les nattes rituelles du Tarabone, qui pendaient jusqu'à sa taille. Aucune des sœurs ne laissa échapper la moindre information sur le contenu des missives. Mais toutes les trois portaient le châle depuis plus d'un siècle, et elles étaient connues pour respecter scrupuleusement la loi. Moiraine vit dans ces deux éléments une confirmation de sa théorie, et Siwan commença à y souscrire. Cinq femmes semblaient bien peu pour se lancer à la recherche du bébé. Jour après jour, la liste de noms des deux amis s'allongeait, emplissant leur carnet. Pourtant, Tama n'envoya pas d'autres convocations, en tout cas par leur intermédiaire. Mais Aeldra Najaf avait été nommée gardienne des chroniques pour remplacer Jitara, et elle avait pu s'en charger, ou au moins confier la tâche à une novice. Pendant un temps, Moiraine et Siwan tentèrent de surveiller discrètement le bureau de la chère d'Amirlin et ses appartements, mais le flot de visiteuses resta très régulier, et fort peu révélateur. Si on pouvait exclure d'office les représentantes, qui quittaient très rarement la ville, toutes les autres sœurs auraient pu être des enquêtrices potentielles. Ou non. Moiraine en conçut une très vive irritation. Toujours cette affaire de démangeaison entre les omoplates, là où elle ne pouvait pas se gratter. Les deux amis abandonnèrent très vite leur surveillance. D'abord parce que ça ne semblait conduire à rien. Ensuite parce que, en se relayant ainsi, il n'y avait plus qu'une copiste, et le travail en pâtissait. Enfin, alors qu'elle retournait dans le bureau de la chère d'Amirlin, Aeldra surprit Moiraine devant la porte. Il y avait un seul point commun entre Jitara et sa remplaçante, les cheveux blancs. Et encore, ceux d'Aeldra, très raides, étaient-ils coupés courts, selon le style qu'affectionnait Keren. La nouvelle gardienne était mince et sa peau, cuivrée à force d'être exposée au soleil et au vent, avait un peu l'allure du vieux parchemin. Même sans ça, elle n'avait jamais dû être considérée comme une beauté, avec sa mâchoire étroite et son nez aquilin. En guise de bijou, elle portait en tout et pour tout la bague au serpent. Vêtue d'une robe de laine bleue très simple, elle avait opté pour une étole étroite, en signe d'humilité sans doute. Bref, une femme très différente de Jitara.
« Que fais-tu là, mon enfant ? »
demanda-t-elle gentiment.
« Je regarde les sœurs entrer et sortir du bureau de notre mère, Aes Sedai. »
La stricte vérité, jusqu'au plus petit mot. Aeldra sourit.
« Tu rêves du châle ? T'entraîner et étudier t'en rapprocherait peut-être plus efficacement. Nous trouvons le temps pour tout faire, Aes Sedai, et le travail dont je me charge m'occupe l'esprit. »
Encore la stricte vérité. La quête du bébé mobilisait en permanence Moiraine, lui épargnant de se concentrer sur des ruminations qui ne l'amèneraient à rien. Le front plissé, Aeldra posa une main sur la joue de la jeune femme, comme si elle redoutait de la sentir fiévreuse.
« Les cauchemars te perturbent toujours. Certaines sœurs marrons sont de très bonnes herboristes, sais-tu? Si tu en as besoin, elles te donneront une potion qui t'aidera à dormir. » Verin Sedai a déjà eu cette gentillesse.
Le breuvage avait un goût atroce, mais il agissait.
Hélas, il n'aidait pas moins Rain à oublier les mauvais rêves qui venaient la hanter, une fois endormie.
Mais les cauchemars ne sont plus si terribles.
Parfois, il était impossible d'éluder la réalité, même avec des réponses d'Aes Sedai.
Très bien, dans ce cas.
Aeldra sourit de nouveau, mais elle pendit néanmoins un index réprobateur sous le nez de Moiraine.
Quoi qu'il en soit, rêvasser devant une porte n'est pas une conduite convenable pour une acceptée. Si je t'y reprends, je ne pourrai plus fermer les yeux. C'est compris? Oui, Aes Sedai.
Cet incident marqua la fin des rondes de surveillance. La démangeaison devint si forte que Moiraine crut plus d'une fois qu'elle allait en hurler de rage.